Bonjour à toutes et à tous. Le IaaS, tout le monde en parle, mais finalement, c'est quoi le IaaS? On a toujours tendance à résumer le IaaS, l'infrastructure as a service, comme étant basiquement quoi? Ben, des machines virtuelles. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a d'autres éléments qui interviennent dans l'infrastructure as a service. Là, on va vous présenter ce qu'on fait dans l'infrastructure as a service de Microsoft, dans Azure. Et donc, on va avoir quoi dans de l'infrastructure as a service? On va avoir du compute, donc de la puissance de calcul. On va avoir bien entendu du réseau. Donc du réseau pour venir connecter des machines virtuelles, du réseau pour s'interconnecter avec des clouds privés. Et puis, ben, on a également du stockage, stockage qui va prendre la forme de stockage particulier dédié à des usages de cloud ou dédié à du stockage de machines virtuelles, par exemple. Le tout, bien entendu, n'a aucune valeur si on n'a pas une colonne vertébrale qui est fédératrice et si la fédération, finalement, c'est l'identité. L'idée, c'est de pouvoir regrouper l'ensemble de l'accès et de la gestion de la sécurité à ces ressources au travers d'un squelette, d'une colonne vertébrale qui s'appellera Azure Active Directory, qu'on va voir juste après. Du coup, plutôt que d'en parler, plutôt que des mots, on va voir avec Arnaud justement quelques exemples. Et donc, nous voici avec Arnaud. Arnaud, je te propose de commencer par tout seigneur, tout honneur.
Le sujet majeur, évidemment, les réseaux. Donc, on va regarder comment on va faire communiquer ces machines une fois qu'elles seront dans un service de cloud. Donc, on est dans le portail de Microsoft Azure ici, ce qu'on appelle le portail moderne, le dernier. Et on a l'ensemble des ressources qui sont à notre disposition ici. Donc, on voit ici des machines virtuelles, du stockage et la partie réseau virtuel. Si on regarde dans cette partie réseau virtuel, c'est là que je vais en fait avoir accès aux différents réseaux que j'ai d'ores et déjà prédéfinis. Alors, parmi ces paramètres, on va avoir des choses relativement classiques. Quand on parle de réseau, on parle d'ores et déjà d'adresse IP. Donc, si je vais dans un réseau que j'avais créé juste auparavant, on a ici une section où on voit que j'ai créé un réseau avec un espace d'adressage 10.0.0/16. Donc on est à l'intérieur de l'ARFC 1918 ici, c'est-à-dire en gros
la 10.0 quelque chose, la 172.16 avec quelque chose derrière, et bien entendu la classe C, la 192.168 avec quelque chose derrière.
Exactement, et on est dans de l'IPv4 pour le moment. IPv6 va bientôt arriver. N'oublions pas aussi que si vous avez une place d'adressage que vous voulez héberger dans Azure, on sait aussi faire du Bring Your Own IP, c'est-à-dire vous n'avez votre espace d'adressage et on l'héberge dans Azure. Donc, à quoi ça correspond ici? Je vois que j'ai défini mon espace d'adressage. Je vais pouvoir créer différents subnets ici. Donc, j'ai un 10.0.0/24, donc la première subdivision évidente de ce réseau slash 16. Il a été créé, je vais pouvoir créer 251 machines à l'intérieur. J'ai créé un autre réseau qui est présent. Je vais pouvoir aussi utiliser des serveurs DNS qui sont présents dans Azure pour résoudre les noms localement à l'intérieur des machines qui sont dans Azure, où je vais même pouvoir faire mon propre DNS en apportant une machine Windows ou Linux qui héberge son service DNS. Une fois que j'ai créé ça, un autre point qui est fondamental dans les services réseau, c'est la stratégie de cloud hybride, en fait, c'est cette interconnexion entre mon data center et mon service de cloud, mon service dans Azure. Eh bien, j'ai besoin d'avoir une connexion qui soit fiable et hautement disponible. Donc, pour ça, j'ai plusieurs options. Ici, je vois dans l'interface que j'ai la possibilité de faire une interconnexion en mode site à site. Dans ce mode site à site, je vais venir créer une passerelle VPN IPsec qui peut être jusqu'à plusieurs centaines de mégabits par seconde. Je vais pouvoir utiliser même ExpressRoute, qui viendra ajouter cette fois-ci Azure, mais en tant que site additionnel pour l'infrastructure MPLS de mon organisation. Donc une connexion qui sera très haut débit et très fiable.
Alors, merci Arnaud. Donc là, on a vu déjà le premier pilier, tout seigneur, tout honneur, le réseau. Il y a également le stockage qui est super important. Le stockage pour stocker soit des machines virtuelles, des fichiers, soit pour stocker d'autres données. Donc, je te propose de faire un petit tour sur le réseau.
Eh bien, cette fois-ci, on va en créer un sur le stockage, donc.
Oui, tout à fait.
Donc, on va créer un compte de stockage et ce compte de stockage va avoir différentes formes que je vais pouvoir visualiser ici. Donc, ce qui nous intéresse pour la création de machines virtuelles, c'est un compte de stockage simple, donc Storage Account. On y va par ici et on voit qu'on va utiliser le mode Resource Manager qui se permet de gérer nos ressources de manière moderne dans Azure. Et finalement, quand j'ouvre cet écran, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît, un nouveau panneau et qui va me permettre de configurer ce compte de stockage. Donc ici, je vais faire stockage hop,
en minuscule,
Arnaud et 100D. Et là, je vois que j'ai plusieurs types de comptes de stockage qui sont à ma disposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Premièrement, j'ai pour mes machines virtuelles le stockage redondant localement. Ça veut dire que j'ai 3 copies de mes données à l'intérieur d'un data center pour faire face à toute défaillance qui peut arriver sur le matériel. Je peux avoir le choix d'avoir 3 autres copies dans un autre data center. Et je peux avoir un troisième mode qui est une autre copie dans un autre data center. Donc, 3 jeux de données dans cet autre data center qui sont disponibles en lecture seule pendant que mes données sont en production dans le premier data center. Donc assez sympathique. Ici, pour les besoins de cette démo, j'ai juste besoin d'un compte qui soit redondant localement. Donc je vais choisir cette option ici. Je choisis l'abonnement dans lequel je veux le stocker. Et puis je classe ça dans un ressource group. Donc je fais RG stockage. Un ressource group, c'est simplement une manière de regrouper mes ressources ensemble pour pouvoir les administrer plus facilement. Je sélectionne ensuite l'emplacement géographique dans lequel je veux consommer ces ressources. Et puis je crée ce compte de stockage. Donc j'ai là en fait mes éléments fondamentaux pour mes machines virtuelles.
Effectivement, donc on a vu le réseau, le stockage. Et maintenant, on a ces deux éléments qui sont nécessaires pour créer après une machine virtuelle. Je te propose de nous montrer des machines virtuelles qui existent déjà dans ton infrastructure.
Alors, à quoi ça ressemble? On voit ici, j'ai la section machines virtuelles. Si je veux voir un peu ce qui est en train de se passer dans cette infrastructure, je peux aller voir des machines qui sont d'ores et déjà en cours d'exécution. Et si je veux voir sur ces machines, je veux voir leur emplacement géographique. Est-ce qu'elles sont opérationnel ou pas. Donc là, je vois que ce serveur, il est en train d'être exécuté. Il est sélectionné dans l'emplacement géographique de l'Europe de l'Ouest. J'ai son adresse IP publique et je vais pouvoir m'y connecter directement en appuyant sur le bouton Connect dans lequel j'aurai accès finalement à ma console remote desktop comme j'ai l'habitude de le faire dans mon data center.
Ça, c'est quand tu es dans une machine Windows. Dans une machine Linux, ce sera
du SSH. Donc des choses qui sont finalement très très classiques. Ici, je peux avoir accès à un petit peu plus de paramètres sur sa machine. On voit que je peux resetter le mot de passe si jamais j'ai perdu le mot de passe d'accès à ces machines. Je peux rajouter des disques pour rajouter de la donnée. Et puis, je peux rajouter des ACL pour définir qui va accéder à quelle ressource sur ce réseau.
Ça tombe bien que tu parles d'ACL parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, un des éléments fondateurs et un des piliers finalement de l'infrastructure de service, c'est quoi? C'est l'identité. Donc ça veut dire donner des accès, des droits à des personnes et des permissions sur des objets tels que les machines virtuelles. Et ça, on va le faire avec l'identité, avec Azure Active Directory.
Eh bien, effectivement, nos clients utilisent déjà Active Directory pour pas mal de temps dans leur data center. Il y a le pendant dans Azure qui s'appelle Azure Active Directory et qui va me permettre de la même manière de gérer les identités et de déléguer l'accès et d'autoriser l'accès à des ressources en synchronisation avec leur annuaire déjà existant. Donc pour ça, ici, j'ai la console Azure Active Directory qui est présente dans un portail d'Azure qui est un petit peu différent, ce qu'on appelle le portail classique. Et puis ici, j'ai accès à mes utilisateurs. Donc j'ai simplement un certain nombre de comptes que j'ai d'ores et déjà créés qui sont ici à l'intérieur d'un domaine bien particulier de Arno Labs. Et j'ai aussi la possibilité d'ajouter des utilisateurs qui peuvent faire partie de mon Active Directory déjà existant, un compte Microsoft ou alors une identité qui est purement dans le cloud, provenant soit de Azure AD, soit d'un partenaire.
Voilà. Et ce sont ces identités que nous allons utiliser dans ce qu'on appelle le RBAC, le Role Base and Access Control, qui va permettre en fait de dire, sur tel ressource groupe, par exemple, je vais déléguer le droit de création ou de visualisation des paramètres à tel groupe d'utilisateurs ou à tel utilisateur provenant de Azure Active Directory. Voilà. Donc, on ne saurait qu'encourager maintenant à essayer Azure. Finalement, c'est ça l'idée derrière, c'est de se dire, on a le réseau, on a le stockage, on a les machines virtuelles, on a l'Active Directory, on prend tout ça ensemble, c'est les ingrédients de la recette, et après, ben, on fait ces bons petits plats.
Et on dit merci qui ?
Merci Arnaud.